Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Ça va? Je pourrais changer peut-être le titre en disant « Don et contre-don, l'économie de l'échange » selon Léon Blois. Louis Monchal écrit pour la première fois à Léon Blois le 18 juin 1884 pour lui exprimer son enthousiasme après la lecture des propos d'un entrepreneur de démolition, livre paru au mois de mai précédent. S'ensuit une correspondance qui associe aux lettres de Louis Monchal celle de sa femme Adèle et celle d'une amie du couple, Henriette Thuillier, correspondance publiée par Gaël Guyot-Rouge, à qui je rends hommage aujourd'hui. Dans son ouvrage « L'œuvre romanesque de Léon Blois », Pierre Glaude présente ainsi le bibliothécaire Louis Monchal, un Genevois d'origine française, agnostique furieusement désespéré, profondément attaché à la personne de Blois, qui donne à ce dernier, pour la première fois, ce dont il a le plus besoin, l'aide matérielle et la plénitude de l'admiration, dans un total abandon du cœur et de l'esprit, qui aiment et comprennent sans juger. Dans l'existence et dans l'imaginaire de Blois, c'est l'échange qui fonde les relations interindividuelles, et ce faisant, qui détermine la place de chacun dans la sphère sociale et dans celle des esprits ou des âmes. Cet échange se construit selon un processus dynamique et fonctionne selon un système assez simple, mais qui emprunte des formes variées. Le don doit être suivi d'un contre-don, ou pour reprendre une formule de Daniel Sansu, l'équilibre des comptes doit être respecté. Je m'intéresserai au modèle de ces échanges dans la correspondance avec les Monchal des années 84-86, année marquée par la mort de Berthe, la compagne de Blois qui décède du tétanos, par l'échec du journal Le Pal et par l'écriture du roman Le Désespéré. Mais je suppose que ces modèles se retrouvent dans la suite de cette correspondance, comme très logiquement, je l'espère, dans les autres textes de l'écrivain. Si Blois apparaît comme inadapté à la société de son temps, c'est parce qu'il pense l'échange selon le modèle évangélique. Sa logique du don se confronte à la logique économique de la société marchande et l'impossibilité d'harmoniser ces deux logiques peut expliquer en partie la nature si paradoxale de son désespoir. Pour asseoir les fondements de mon analyse, je partirai de la première et très longue lettre adressée à Louis Monchal le 15 septembre 1884, en m'autorisant une très brève incursion dans la deuxième lettre. Tous les éléments du système bloyen du don s'y trouvent réunis. Premier point de la lettre, Blois remercie Monchal de sa lettre et explique qu'il a attendu 2 mois avant de répondre parce qu'il craignait une mystification. « J'ai donc résolu de vous écrire et même de répondre à l'extravagance de vos éloges par le délire de ma confiance. La parfaite symétrie des hyperboles exprime la perfection de la relation. » Laquelle se fonde sur de justes comptes. Le don a été suivi d'un contre-don qui n'est pas de même nature, mais possède une valeur équivalente. Celui qui a donné et celui qui a reçu se trouvent à égalité. Dans la suite de la lettre, dans le deuxième point, Blois analyse pour son correspondant son comportement avec Dieu et plus particulièrement avec le Christ. Je lui reproche d'être si peu triomphant dans un monde qu'il a racheté et d'avoir abandonné ses amis les plus fidèles quand il s'en est allé si soudainement vers son père, il y aura bientôt 2000 ans. Et il ajoute un peu plus loin, « Ah, je sais bien ce que l'on prêche, qu'il faut être résigné, qu'il faut accepter et qu'il faut se réjouir d'avoir le cœur désolé, qu'il y aura des compensations exactes et de justes comptes à la fin des fins. mais c'est le propre de l'amour que d'être impatient, et l'amour extrême est extrêmement impatient. La relation s'inscrit ici dans une logique comptable, compensation exacte et juste compte. Blois a donné au Christ un amour total. À l'image de ce dernier, il a lui aussi souffert le martyr. Il est donc en droit d'exiger quelques biens en échange, ce qui sera réalisé, mais seulement à la fin des fins. Le don sera suivi d'un contre-don, mais ce dernier est donc différé. Troisième point, Blois parle de son actuel éditeur. Un éditeur qui croit à mon avenir et qui attend mon nouveau livre avec impatience. Mais cet homme qui espère s'enrichir un jour par mois ne m'avancerait pas un centime pour me mettre en état de travailler en toute liberté d'esprit et sans l'exaspérante incertitude du pain quotidien. Le processus plus haut décrit ne fonctionne pas. L'éditeur est dans une logique marchande, celle de l'objet fini que l'on paie en fonction du bénéfice que l'on espère en réaliser. À ce mauvais riche est opposé l'homme charitable que Blois met en scène tout aussitôt en lui prêtant ce discours. « J'ai foi en vous, voici du pain pour 6 mois, travaillez en paix et tâchez de me faire un chef-d'œuvre. » Mais ce personnage, qui respecterait le système du don et contre-don différé décrit plus haut, l'argent contre un chef-d'œuvre qui viendrait en son temps, n'est évidemment qu'une fiction. Dans cet exemple, les comptes sont montrés comme pervertis ou faussés. Quatrième point, Blois propose à Monchal une combinaison, et je privilégie ce terme parce qu'il est récurrent dans la correspondance. Il lui demande de trouver un acheteur pour un manuscrit de Barbey d'Aurevilly qui est en sa possession et qui correspond au premier état du roman « Une histoire sans nom ». Mais il ne s'agit pas d'une opération vulgaire de commerce. Blois souligne évidemment la valeur du manuscrit, mais il désire obtenir une somme, qui ne tient pas compte de cette valeur marchande. Un bibliothécaire doit connaître beaucoup d'amateurs de manuscrits. Celui de l'histoire sans nom pourrait me sauver si on me découvrait un acheteur généreux qui aimait les lettres et qui s'intéressa à la vocation d'un jeune écrivain réputé supérieur, mais qui peut succomber si on ne le secourt pas promptement. Il est bien entendu que je rêve une transaction ultra miséricordieuse de la part de cet acquéreur philosophal. Il y aura donc un écart entre la valeur estimée de l'objet et le prix de la transaction, ce qui implique un acheteur désintéressé, animé surtout par la générosité. Un passage de la lettre suivante, datée du 9 septembre, éclaire l'intention de l'échange. « Vous avez compris que la vente du manuscrit de l'Histoire sans nom était surtout une occasion offerte par moi de pratiquer la magnificence au profit d'un écrivain pauvre et en danger. » Ici s'opère ce renversement dont Blois est si coutumier. Le donateur n'est pas celui qui verse l'argent, mais celui qui donne à l'autre une occasion de pratiquer la magnificence. Les deux acteurs de la transaction se retrouvent ainsi à égalité. Chacun donne et reçoit. Personne n'est humilié par le don qu'on lui fait. Mais il s'agit ici d'une combinaison encore toute virtuelle. Blois se comporte en utopiste, imaginant les moyens de corriger l'état défectueux des relations économiques et sociales. Le principe de réalité, évidemment, va reprendre le dessus. Puisqu'il faut absolument parler d'un prix, le maximum par lequel je pourrais être sauvé est 1000 francs. Le manuscrit proposé sera couvert d'or et sera payé le double ou le triple après la mort de l'auteur. Quant au minimum, il sera ce qu'il pourra. Je suis si malheureux et si pressé que je consentirai à ne recevoir que 500 francs. Mais jamais un pire marché ne serait conclu. Blois pressent que sa combinaison va se heurter à une logique économique qui lui est étrangère. Un objet a une valeur qui répond à la loi de l'offre et de la demande. Toute somme d'argent ne peut être investie à perte et doit rapporter un intérêt. Enfin, dernier point, Blois termine sa première lettre en faisant référence à l'ordre des vertus. Je m'adresse donc à vous avec l'espérance et la confiance particulière aux gens en détresse. Puisse cette démarche vous toucher et vous disposer à me répondre charitablement. Les trois vertus théologales sont ici réunies, l'espérance, la foi à travers la confiance et la charité. La charité, effleurée plus haut, introduit un autre ordre de relation, le don dans l'oubli de soi et dans le pur amour de l'autre. Ce qui importe dans cette première lettre, du moins c'est ce qui m'a importé, c'est que tout tourne autour de règlements de comptes. Soit le fonctionnement du don et du contre-don est naturellement équilibré, soit il est perverti et renforce les inégalités sociales, soit, si ce dernier cas a lieu, il est plus ou moins heureusement rééquilibré grâce à la combinaison. Ce sont ces trois points que j'aimerais maintenant approfondir. L'amitié entre Monchal et Blois est un exemple, sans doute unique, de compte parfaitement harmonieux. La clé de l'équilibre est donnée dès le départ de la correspondance. « Ami, je vous bénis de toute mon âme pour ce don que vous faites de votre cœur à un homme vraiment malheureux et je me donne moi-même à vous avec enthousiasme. » Le don total et réciproque est possible, est-il expliqué dans la suite de cette lettre, parce qu'il y a entre les deux hommes, je cite, « parenté spirituelle » ou encore « affinité »,« consanguinité », génération de l'esprit. On est dans l'ordre de la similitude ou de l'identité. Le don et le contre-don sont quasi simultanés parce qu'ils sont semblables, celui qui donne et celui qui reçoit, offrant des biens de même nature, sont évidemment à égalité. Ce que raconte la correspondance, au-delà du récit des événements qui la nourrit, c'est la façon dont ce parfait équilibre sans cesse menacé, se maintient ou se rétablit. Manifestation de l'amitié, la lettre est ainsi un don qui circule à double sens. Si l'échange était parfaitement régulier, même nombre de lettres et de longueur identique, tout serait sans histoire. Mais tel n'est évidemment pas le cas, et Blois se sent contraint de tenir une comptabilité scrupuleuse car il craint d'être trop gravement débiteur. Je sens très bien que j'aurais dû vous écrire au reçu de vos envois, je ne le pouvais pas. Autre peu plus loin, heureusement que vous êtes des créanciers miséricordieux et pleins de patience. Supplie Adèle et Henriette d'avoir pitié de moi et de me faire crédit d'un peu de temps pour répondre à leurs lettres. Comme il ne peut s'en sortir même avec le créditant accordé, Blois propose d'envoyer une lettre par semaine, adressée soit à Monchal, soit à Henriette. Je reconnais que ma proposition doit paraître d'un trésorier les plus sordides, mais la nécessité me presse et je compte sur votre miséricorde. Je n'ajoute donc pas un mot et je vous envoie 10 baisers. 10 et souligné. Il va de soi que celui qui écrit n'offre pas une simple lettre, mais quelque chose en sus. Vous m'avez écrit une longue lettre charitable qui m'a sur le champ ranimée, et depuis ce jour, je vous aime deux fois plus qu'avant, ma sœur Henriette. La lettre apporte avec elle le réconfort, la réponse renvoie une affection redoublée. Au-delà des lettres, d'autres biens circulent entre Genève et Paris et toujours selon le même schéma. Blois offre le chapelet de Berthe à Camille, la fille d'Henriette, et en échange, Camille prie pour Berthe et pour lui. Il n'est pas rare non plus, il est même très fréquent, que les lettres des Monchal soient accompagnées d'un don supplémentaire. Chemise, mouchoir, chaussettes, et même argent, malgré la défense qui en a été faite à mon châle par Blois dès le début de leur commerce. L'échange risque alors de se déséquilibrer, puisque un des plateaux de la balance penche irrésistiblement du côté de Blois. Je suis dans la situation d'un homme qui n'aurait rien apporté dans une situation qui l'enrichirait. Je suis le voleur des pauvres. Ou encore, je suis honteux d'escroquer une amitié dont je me sens parfaitement indigne. L'harmonie pourtant persiste grâce au processus suivant. Du côté de Blois, il y a toujours reconnaissance de la dette, jamais ingratitude, ni déni du bienfait. Le fait de se présenter comme un exploiteur, un voleur, un escroc, est une autre manière de valoriser le geste du donateur et donc de lui rendre d'une autre façon et en partie son don. Du côté des Montchal, la générosité est exemplaire car le don est fait sans espoir de contrepartie. Reçu, écrit Blois. Les remerciements seraient évidemment imbéciles puisque dans votre conviction, c'est vous qui recevez et moi qui donne. Autre part, avant tout, j'ai reçu le mandat, 30 francs, pas de remerciements. Êtes-vous contente? La dette, même morale, est effacée. Les Montchal sont des samaritains, le mot est de ploi, exemplaires. Ils pratiquent la véritable charité. Mais si Blois ne peut rembourser sa dette, c'est-à-dire rendre l'argent comptant, il s'efforce le plus souvent de trouver un contre-don de valeur équivalente au don qu'il a reçu. Des articles, des images, son portrait. Ainsi, quand il note à regret que ses lettres sont décidément plus brèves que celles de Montchal, il propose pour contrebalancer de destiner à son correspondant les articles qu'il écrit pour le chat noir. C'est encore à son nouvel ami qu'il offre la dédicace du désespéré comme compensation. De plus, il est sous-entendu que dans un futur indéterminé, la distribution des rôles sera inversée. Le débiteur rendra ce qu'il doit au centuple, puisqu'il partagera les deniers de sa gloire. Quand ? Lorsque le désespéré sera un succès, et si ce n'est pas le cas, plus tard, quelques jours. Cette perspective change la situation des différents acteurs. Ceux-ci ne sont plus liés par la dette, ils deviennent partenaires associés. Le fléau de la balance se situe à nouveau au centre. Je vous accuse, réception, de votre mandat de 20 francs, mais en vous disant que c'est vraiment trop, vous dépouillez pour moi mes pauvres petits-neveux. Si je n'avais pas l'espérance d'un résultat prochain qui me permette de travailler utilement pour vous à mon tour, je serais rongée de remords. Lors de l'édition du Désespéré, Blois écrit à Montchal : « Si je parviens à gagner cet hiver quelques billets de 1000 francs, tu sais bien qu'ils sont à toi. » L'amitié crée un corps et un compte unique. Blois et ses amis appartiennent à une même entité, celle de la famille, désormais oncle, frère, sœur ou neveu. En revanche, quand dans la correspondance les comptes ne concernent pas les Montchal, ils peuvent se déséquilibrer dangereusement si le donateur ne respecte pas les lois bloyennes du don, s'il ne se comporte ni avec générosité, ni avec charité, subordonnant son don à des conditions insupportables qui s'apparentent à l'humiliation ou à l'asservissement. Ainsi, à Fontenay, un millionnaire a pitié de la détresse de Blois et lui propose 100 francs par mois pour qu'il puisse avancer l'écriture du désespéré. La transaction commence sous les meilleurs auspices. Blois reçoit l'argent et il est entendu que la contrepartie consiste à écrire le roman dans les délais voulus. Mais le donateur s'inquiète soudain de la nature et de la qualité de cette contrepartie. Il a imaginé Blois, c'est Blois qui le dit, c'est pas moi, comme un Dumas, un Feuillet ou un Paul de Kock et non comme un Blois. Et il entend alors interférer dans l'écriture du texte. Devenu méfiant, il mesure son don et au lieu de donner en laissant ignorer ce qu'il donne, il verse l'argent par fraction, 20 francs par semaine, exigeant de plus d'en contrôler l'emploi. Il faut rendre compte de l'usage qui est fait de l'argent avec la crainte d'être sévèrement blâmé si on s'avise de manger autre chose que des pommes de terre. Le déséquilibre des comptes fonctionne aussi en sens inverse. Blois peut être un créancier et qui estime n'être pas remboursé à la mesure de ce qu'il a donné. Dans la correspondance, les exemples concernent plus particulièrement ses relations professionnelles. On est dans l'ordre de l'exploitation. C'est un leitmotiv lorsque Blois parle de ses éditeurs. Il est vrai que cet agneau, dont je n'ai pas reçu un liard, m'avait imposé un traité rédigé de telle sorte que si par miracle mon livre avait obtenu un grand succès, le pauvre homme faisait sa fortune et l'infâme auteur était miséricordieusement gratifié de quelques pauvres os sans moelle de loin en loin. L'épisode de l'éditeur Stock qui lâche son auteur au moment de la publication du Désespéré s'inscrit dans la même logique. Je suis donc dans la situation d'un ouvrier qui aurait peiné tout le jour en mourant de faim, sous le soleil et la pluie, et qui, à l'heure du salaire, non seulement serait privé de salaire, mais encore verrait briser ses outils. Les relations avec Salis, le directeur du Chat Noir, sont du même ordre. Dans la lettre à Montchal du 4 novembre 1984, Blois fait le résumé du déséquilibre flagrant des comptes, et ceux-ci sont particulièrement complexes, car chacun des deux protagonistes de l'affaire est à la fois le débiteur et le créancier de l'autre. J'ai travaillé plus de 2 ans, quoique démolisseur, à l'édifice de sa fortune, laquelle est aujourd'hui réalisée, et le drôle pourri par l'argent devient superbe. Seul de tous les camarades qui l'ont secouru dans la fortune, je lui suis demeuré fidèle et son journal ne vit plus que par moi. D'un autre côté, Blois reconnaît bien qu'il doit à Salis l'origine de sa célébrité. Mais le désordre dans les comptes vient d'un facteur beaucoup plus grave que la collaboration rompue sans dédommagement, bien entendu. Il naît de l'ingratitude de Salis. Celui-ci a laissé publier dans son journal une caricature de Villette qui vise Blois. La faute a fait pencher un des plateaux. Aujourd'hui, écrit Blois, ma dette est 10 fois payée et il ne reste plus que les offenses dont je me venge en me retirant. La seule réparation possible serait, je cite, un salaire qui dédommage des avanies personnelles. Aucune somme n'est évidemment précisée puisque l'offense est trop grave pour être chiffrée. Le déséquilibre des comptes emprunte encore une autre forme quand Blois est contraint d'accepter un travail annexe pour pouvoir survivre. Cette tâche imposée introduit le désordre dans sa vie. Elle le détourne de sa voie l'écriture et le fait entrer dans un cercle infernal. Mon pénible travail d'enluminure par lequel ma vue est attaquée ne peut être exécuté qu'à force de temps, c'est-à-dire au prix de 12 heures par jour, et je ne puis trouver ce temps à cause de la nécessité sans cesse renaissante de dénicher ma subsistance quotidienne. Le travail ici n'est pas envisagé en fonction d'un gain, 3 francs par jour pour cette enluminure, mais en fonction d'une perte. Il détruit ou dévore le corps et le temps. Blois transforme l'adage « tout travail mérite salaire » en, je cite, « de sordides salaires pour d'abjectes besognes ». Et il aboutit à cette formule quand cette fois-ci il s'agit d'une tâche qui correspond à ses compétences, rédiger un article, « ce serait de l'argent acheté trop cher ». On le voit, dans son existence, Blois est bien souvent obligé de subir la pauvreté ou les désillusions, mais il agit constamment, c'est son tempérament, pour tenter de rétablir l'équilibre de ses comptes. Entre ici en jeu ces combinaisons dont il a été question plus haut, combinaisons complexes que l'on nommerait aujourd'hui montage financier. Ces montages impliquent plusieurs parties. Celui qui finance l'opération, le bénéficiaire de cette opération, Blois, et parfois un troisième homme qui fait le lien entre les deux premiers, jouant la fonction d'une sorte de courtier. Ainsi, mon châle, comme nous l'avons vu plus haut, est d'abord pressenti pour trouver un acheteur pour le manuscrit d'une histoire sans nom. Peu de temps après, c'est un brave homme qui a déniché une combinaison, c'est du Blois, qui prend le relais. Il a eu l'idée d'une loterie. Le lot est le même manuscrit de Barbet. Le financier n'est plus un improbable millionnaire, mais 50 acheteurs de billets à 20 francs chacun. Ce nouveau plan échoue. Blois ne se décourage pas, il fait intervenir l'éditeur Stock en instance auprès de divers millionnaires. Sans succès, là non plus. Des stratégies tout aussi fragiles engendrent des espoirs tout aussi démesurés et des désillusions d'autant plus cruelles. Des exemples. Fin mars 85, Blois trouve pour le PAL un millionnaire. Le numéro 3 paraît, mais le contrat est rompu dès le 10 avril. Le commanditaire entendait se servir de l'écrivain pour une vengeance personnelle. Or, non seulement, écrit Blois, ce bas tripotier voulait m'atteler à son char d'immondice, mais encore, il prétendait imbécilement réaliser de superbes profits, presque sans bourse, déliés. Avril 85, Villiers espère vendre à son éditeur pour 500 francs un volume de nouvelles et il entend partager la somme avec Blois. Les deux amis se rendent chez l'éditeur. Le paiement est ajourné. Septembre 86, j'ai écrit deux lettres brûlantes à un millionnaire de ton voisinage, Chambéry, qui entretient une cinquantaine de chevaux dans son écurie et qui fut couronné par l'Académie française pour un livre sot. Il a même publié sous son nom des pages de moi que je lui avais confiées sans m'avertir. Je lui demandais une pension de cheval pour un mois, il ne m'a même pas répondu. La métaphore animale, entrevue déjà plusieurs fois, est à nouveau présente. Dans cet exercice de redistribution, l'argent placé sur un cheval peut être détourné sur un autre cheval. Pour ce faire, Blois demandera l'intercession de son correspondant, mais, hélas, sans succès. Novembre 86, Stock refuse d'assurer l'édition du Désespéré. Blois cherche un autre éditeur. Cependant, si tu pouvais mettre la main sur un tel phénix, je suis persuadée que ce serait une bonne affaire pour lui. Bonne affaire, puisque Stock a déjà édité une partie de l'ouvrage, on sait ce qu'il en sera. La dynamique de ces divers montages ou de ces diverses combinaisons financières se rapproche curieusement de celle de la prière, telle que Blois la pratique, et en raconte l'expérience à Adèle. Dieu y joue le rôle du millionnaire dont on implore un secours. La demande peut être faite directement ou passée par un intercesseur, un courtier en quelque sorte, par exemple Berthe. Tout à coup, le lendemain d'un effroyable jour des morts, la chère absente apparaît distinctement à sa mère et lui dit une parole d'espérance. Quelques heures plus tard, 150 francs me tombent du ciel. À la demande de Blois, Adèle prie. Qu'en arrive-t-il? J'ai vu mes créanciers les plus farouches s'adoucir inespérément, suspendre leurs menaces et une petite somme m'arrivait juste à point pour calmer ma propriétaire. Blois le pauvre attend donc l'aide de Dieu, le riche absolu, comme il attend un secours d'un millionnaire de Fontenay. Ainsi, dans la lettre du 26 mars 86, Blois écrit que sa propriétaire va le mettre dehors, mais qu'il sait qu'un miracle d'ordre financier aura lieu. Je me suis donc dit, après quelques lamentations, que cette avanie nouvelle était sans doute un très grand bien, que c'était à coup sûr l'heure de ma délivrance qui allait sonner, que je me trouvais sans un sou, incontestablement, et que cette extrémité même allait déterminer quelques largesses de la Providence, et que, en somme, tout serait pour le mieux. Il explique à Monchal qu'il va partir à Paris s'installer dans une mansarde, l'argent devant arriver infailliblement, je ne sais d'où. Blois attend donc constamment un miracle, et qu'est-ce qu'un miracle pour lui, sinon le don d'un Dieu charitable qui n'exige rien en retour. Ainsi s'explique aussi sa certitude que quelque chose d'extraordinaire se produira durant l'année 86 et plus généralement que les événements s'enchaînent selon des lois programmées qui finissent toujours par donner quelque chose. Rien n'est livré au hasard, c'est-à-dire au néant, puisque Dieu est partout et notre rencontre n'est pas en vain. Elle doit produire en son temps je ne sais quel fruit dont la saveur sera parfaite. Dans ces diverses combinaisons, le millionnaire n'est pas limité à sa seule identité personnelle. Il est le représentant symbolique d'une collectivité ou d'un groupe social, les riches. Pour Blois, ceux qui conservent pour eux seuls leur argent sont coupables, non par égoïsme, mais parce que leurs dons ne circulant pas, l'énergie se fige. Les riches sont responsables de la situation misérable de n'importe quel pauvre, même s'ils ne le connaissent pas, et donc de celle de Blois en particulier. Il est désolant de penser que la privation de quelques misérables louis que tant d'êtres sans esprit ni cœur dépensent en une seule soirée m'a forcé de perdre au moins 4 mois sur 8. La lettre est écrite alors que Blois est dans la rédaction du Désespéré. Dans le système de Blois, les riches sont riches de toute éternité, comme si la richesse représentait leur essence. Ils ne sont jamais montrés comme acquérant leurs biens à la sueur de leur front. La richesse semble leur avoir été donnée à la naissance comme un cadeau immérité et donc comme un poids dont ils ne peuvent s'alléger qu'en le partageant avec d'autres. Ils ont donc une seule légitimité, offrir, c'est le mot de Blois, offrir l'argent. Il ne faut pas priver ces malheureux de la seule chose qui milite en leur faveur. À un point de vue très élevé, ils ne possèdent en réalité que ce qu'ils donnent. Je rapprocherai de cette classe de riches, qu'un système social a favorisé, une autre catégorie d'individus, eux aussi fortunés, parce qu'ils ont reçu à leur naissance, de façon tout aussi arbitraire et imméritée, des biens, non pas d'ordre matériel, mais d'ordre moral ou intellectuel. J'ai reçu certains dons de l'esprit. Je ne suis pas assez sot ou assez hypocritement ingrat pour le nier. Mais ces dons de Dieu ont été purement gratuits et ne m'ont pas coûté un sou d'effort. Ces dons exigent aussi d'être partagés. Une partie de la souffrance de Blois, lorsqu'il écrit le Désespéré, vient, il me semble, du fait qu'il doute de lui-même et de Dieu parce qu'il ne parvient pas à achever son livre et donc à offrir la contrepartie attendue. Il n'est pas croyable, après tout, que j'ai reçu des dons uniquement pour en souffrir. Le système semble enrayé. Comme écrivain, serait-il possible que des dons certains m'eussent été départis en vain uniquement pour me torturer ? Dieu n'agit point ainsi. Et celle même de ces créatures que sa providence prédestine le plus à souffrir sur terre n'y demeure pas tout à fait sans consolation. Ces diverses combinaisons, ce sera ma dernière petite remarque, fonctionnent selon le principe même de la réversibilité. L'innocent offre ses souffrances à Dieu et Dieu en retour offre le soulagement du pécheur ou plus largement de celui qui a besoin d'un secours. Je vous porte dans mon cœur malade, je vous chéris, je vous bénis et je demande qu'au moins mes souffrances vous soient comptées pour quelque chose et soient réversibles sur vous en consolation parfaite. Ou encore, pauvres amis, je crois que je donnerai avec joie une considérable partie de ma peau, la seule chose qui m'appartienne indiscutablement, pour vous délivrer de vos tourments. On apprend aussi à travers les lettres de Blois que Berthe, quand elle a été gravement malade, a écrit aux Montchal pour les appeler à l'aide. Après sa mort, les Montchal renvoient à Blois la lettre qu'ils ont reçue de Berthe et celui-ci en résume ainsi le contenu. « Ma bien-aimée vous offrait sa vie en échange du secours qu'elle vous demandait pour moi. » Un peu plus loin, le fond de ma pensée, c'est que votre personnalité se trouve liée en une certaine façon au fait de sa mort et qu'elle vous a, en un sens, donné positivement sa vie conformément à sa promesse. L'énergie circule. Berthe offre sa vie, les Montchal envoient de l'argent, Berthe meurt, Blois est sauvé momentanément. La souffrance acquiert ainsi une valeur positive puisqu'elle devient une monnaie d'échange. Je paye à ma pauvre Berthe l'amour qu'elle a eu pour moi en endurant ce supplice afin de sauver sa mère. On ne reçoit jamais un don sans payer une contrepartie, mais rien n'est perdu de ce que l'on vit, et d'une façon ou d'une autre, cela rapporte toujours quelque chose. Le don et le contre-don fonctionnent donc pour Blois comme un système régulateur des relations avec les autres hommes et avec Dieu. Dans cette perspective, tout acte, écrire une lettre, un livre, aimer, prier, souffrir, met en gage une part de soi, implique un don de sa propre substance et prend une valeur puisqu'il entre dans un système complexe et dynamique d'échange ou d'énergie. L'énergie dépensée ne se perd jamais, elle circule, se transforme, et si tout se passe dans des conditions idéales, elle ne le fait pas dans l'anarchie ni le désordre, mais selon ses circuits orientés qui relient un individu à un autre individu ou la terre au ciel, dans des allers-retours incessants selon les voies de la providence. Celui qui refuse le don ou le contre-don pervertit ou fige ce système. Faut-il conclure que Blois est un désespéré optimiste ? Pour lui, l'individu n'est pas destiné à subir passivement un état social et politique sur lequel il n'aurait jamais prise. Il agit lui-même sans lâcher prise pour tenter désespérément de transformer l'ordre des choses. Lui-même écrit à Monchal en faisant allusion au titre de son futur roman « Je me nomme dans mon livre le désespéré » et voilà certes une antiphrase car il n'est pas possible qu'il y ait jamais eu un espérant plus incurable. Blois poursuit inlassablement un seul et même but, une plus juste redistribution des richesses, selon le principe évangélique qui veut que celui qui a trop reçu donne à celui à qui rien n'a été donné. Et lui-même mettra en pratique ce principe s'il le pouvait. Si par miracle je devenais riche, je planterais là ma littérature et je me ferais le domestique des pauvres. En chrétien impatient, il œuvre avec ses pauvres moyens à hâter la réalisation dans le présent des desseins de la Providence. Dans ce sens, il agit comme la petite main de Dieu. Je vous remercie.